France Culture.
Précisément 18h sur France Culture, le journal Julie Paco. Bonsoir Julie.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Le Chili prendra-t-il le même chemin que ses voisins sud-américains? Les électeurs doivent désigner leur nouveau président et le résultat s'annonce serré entre la candidate de gauche et son adversaire ultra-conservateur, héritier autoproclamé d'Augusto Pinochet. Mettre fin au logement social à vie, ambition du gouvernement et du ministre du Logement, Vincent Jeanbrun. Or, ce principe n'existe pas. Nous verrons cela. Et puis nous irons à Paris Photo. La foire internationale consacrée à la photographie referme ses portes aujourd'hui. Et les images générées par l'intelligence artificielle y sont de plus en plus exposées. 35 ans après la fin de la dictature Pinochet au Chili, ses héritiers politiques pourraient bien revenir au pouvoir et poursuivre le virage électoral à droite amorcé par les voisins argentins et boliviens. Le premier tour de la présidentielle qui se déroule aujourd'hui voit s'affronter la candidate de gauche, Jeannette Jara, talonnée par l'ultra-conservateur José Antonio Kast, tandis qu'un troisième candidat, libertarien, Yohannes Kaiser, pourrait bien créer la surprise. Après une campagne où l'extrême droite a réussi à imposer ses thèmes de campagne, immigration illégale et insécurité. Reportage dans les rues de Santiago de notre correspondante Naïla Derouane.
Tôt ce matin, Maria Paz et son conjoint Gabriel sont venus voter ensemble. Elle est anxieuse. C'est l'avenir du pays qui se joue aujourd'hui, dit-elle. Gabriel, lui, est inquiet de la montée de l'extrême droite.
J'ai peur d'un recul quant à nos droits sociaux et l'hostilité qu'il pourrait y avoir envers les minorités m'inquiète.
À l'inverse, Marcelo est plutôt optimiste. Il veut voir s'en aller l'actuel gouvernement et espère que cette élection serve à mettre de l'ordre dans la maison. Il utilise la même expression que le candidat d'extrême droite. De la même façon, Jorge veut plus de sécurité, mais il précise qu'il est chrétien et souhaite aussi
un modèle pour moi de pays,
un pays basé familia, sur la famille, l'union, la paix et la tranquillité.
Et puis il y a celles et ceux qui disent se situer plus au centre, comme Mauricio.
Le spectre est bien polarisé et c'est compliqué quand il y a beaucoup d'extrêmes.
Patricio est plutôt d'accord.
Ou eres blanco ou eres negro.
C'est soit blanc, soit noir, lance-t-il. Claudia porte la même analyse et attend les résultats de ce soir avec beaucoup d'impatience pour savoir qui ira au second tour.
Naïla Derouane, à Santiago, au Chili. Les électeurs équatoriens doivent se prononcer par référendum sur le retour des bases militaires étrangères sur leur sol. Un scrutin cher au président Daniel Noboa, allié des États-Unis, qui espère un appui américain pour lutter contre le narcotrafic dans un contexte de violence sans précédent dans le pays. Confronté à la montée de l'extrême droite, le gouvernement britannique continue de durcir sa politique d'immigration. La ministre britannique de l'Intérieur a ainsi dévoilé les grandes lignes d'une vaste réforme qui vise à rendre le pays moins attractif. Les réfugiés seraient ainsi forcés de rentrer dans leur pays dès qu'il sera jugé sûr. L'accès automatique aux aides sociales sera supprimé pour les demandeurs d'asile. Et le délai nécessaire pour demander à devenir résident permanent passera de 5 à 20 ans. L'armée israélienne accusée par la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, d'avoir ouvert le feu sur des casques bleus déployés dans le sud du territoire libanais. L'armée israélienne dément avoir visé les soldats de l'ONU délibérément et affirme les avoir confondus avec des suspects à cause des mauvaises conditions météorologiques. Remplaceront-elles un jour nos smartphones? Le marché des lunettes connectées est en tout cas en plein développement. Après l'américain Meta en septembre dernier, c'est au tour de la Chine de dévoiler ses toutes dernières lunettes intelligentes. Des verres avec écran intégré dotés d'une intelligence artificielle et reliés au téléphone. Elles ont été conçues par le chinois Rodkid, l'un des leaders mondiaux de la réalité augmentée. Et notre correspondant Sébastien Berriot a pu les tester.
Oui, alors d'abord, elle ressemble presque à n'importe quelle autre paire de lunettes. L'objectif premier, eh bien, c'est tout simplement de les utiliser pour pouvoir laisser le plus possible son téléphone portable dans la poche du pantalon. On peut donc communiquer oralement avec ces lunettes intelligentes, leur demander de passer un appel, envoyer un SMS, prendre une photo ou bien une vidéo. L'un des ingénieurs de Rockid nous explique que les ordres peuvent aussi être donnés par le biais d'une petite bague que l'on se met sur le doigt. Il y a une molette qui permet de naviguer dans le menu et tout ça est visible donc dans l'écran intégré des lunettes. Cet écran permet de lire toutes les notifications et les messages qui arrivent sur le téléphone. Et les lunettes avec leur écran servent aussi de GPS.
Là, c'est une technicienne de Rokid qui nous montre le nouveau système de traduction simultanée dans 89 langues. La traduction s'affiche dans l'écran en temps réel pendant la conversation. C'est une prouesse, mais dans les faits, on remarque quand même que la fonction n'est pas tout à fait au point. En tout cas, pour traduire du chinois vers le français, le résultat est parfois très approximatif. Enfin, à noter que ces lunettes, vous l'aurez compris, sont chinoises, mais pas à 100%, parce que vous savez que la Chine reste dépendante de l'étranger sur la conception de certaines puces électroniques. Le fabricant a donc utilisé des puces néerlandaises et américaines pour concevoir ces nouvelles lunettes intelligentes.
Après plus de 4 mois de détention au Venezuela, le français Camilo Castro est arrivé à Paris cet après-midi. Ce professeur de yoga de 41 ans avait disparu en juin dernier à un poste frontière entre le Venezuela et la Colombie où il venait renouveler son titre de séjour colombien. Sa libération a été annoncée ce matin par Emmanuel Macron et n'a donné lieu à aucune contrepartie, précise le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, selon qui Camilo Castro a fait les frais d'accusations sans fondement. Le chef de la diplomatie française, qui a par ailleurs précisé sur France Inter que l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal pourrait rentrer en France dans les prochains jours. Il se trouve actuellement à l'ambassade de France, à Berlin. Emprisonné durant un an en Algérie, l'auteur a été gracié puis libéré mercredi dernier à la demande du président allemand. Le gouvernement veut en finir avec le logement social à vie. Le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, déplore dans le JDD aujourd'hui la trop faible rotation des logements sociaux et veut donc limiter la durée des baux. Sauf que, bonsoir Mathilde Cariou.
Bonsoir à tous.
Sauf que le logement social à vie, eh bien ça n'existe pas.
Non, effectivement, les locataires de HLM sont très régulièrement contrôlés, nous dit Emmanuel Cosse, présidente de l'Union social pour l'habitat.
Je ne vais pas m'épuiser à le répéter à chaque ministre du logement, mais il n'y a pas de logement social à vie. La loi prévoit des contrôles annuels sur les ressources des personnes. Quand elles ne répondent plus aux conditions de revenus dans le logement social, elles doivent en partir.
Pareil quand elles demandent à changer de logement, que ce soit pour plus grand ou plus petit. Alors c'est vrai que le taux de rotation dans le logement social est de plus en plus faible, moins de 8% en 2023, déplore le ministre. Mais c'est d'abord parce que la population a vieilli, donc difficile de déménager ou d'acheter une fois arrivé à la retraite. Et puis surtout, cette France des propriétaires dont rêve Vincent Jeanbrun, elle est devenue inaccessible pour la plupart des ménages, estime Jean-Baptiste Hérault de l'association Droit au Logement.
On en est aujourd'hui à aider les classes moyennes à se loger, même les classes moyennes supérieures, ce qui est une aberration complète.
Le vrai problème, disent les associations, c'est qu'on ne construit pas assez dans ce parc locatif. Près de 3 millions de ménages sont actuellement en attente d'un logement social.
Mathilde Cariou pour France Culture. Le député insoumis des Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu, officialise sa candidature aux élections municipales à Marseille. Et il affrontera certainement un autre candidat de gauche, rassemblant communistes, socialistes et une partie des écologistes sous la bannière du printemps marseillais, même si le maire sortant, Benoît Payan, ne s'est pas encore déclaré candidat. À droite, Martine Vassal a obtenu le soutien d'Horizon et de Renaissance, tandis que Franck Alizot se présentera sous l'étiquette du Rassemblement National. Paris Photo tire le rideau au Grand Palais. 220 exposants venus de 33 pays sont venus faire découvrir leurs photos au public cette année lors de cette foire d'art internationale dédiée à la photographie et à l'image et qui n'a pas peur des nouvelles technologies. Ces trois dernières années, des galeries d'art digital sont d'ailleurs invitées pour montrer qu'il ne faut pas opposer intelligence artificielle et photographie. Faouzi Trita.
Aux côtés des galeries de photos traditionnelles, des œuvres numériques sont exposées sur des écrans, comme celle de l'artiste lyonnais Louis-Paul Caron. L'artiste veut alerter sur le réchauffement climatique. On voit des images animées, un peu à la façon d'un écran de veille d'ordinateur, de la planète qui brûle et des personnages qui regardent sans rien faire. Tout est généré par l'intelligence artificielle et c'est un authentique travail artistique pour Rachel Chiche-Portiche de la galerie d'art numérique danae.io.
Et c'est aussi l'erreur que tout le monde a tendance à faire en pensant que l'intelligence artificielle, elle interagit facilement et que finalement elle crée par elle-même. Elle ne crée pas si elle n'a pas elle-même pris, entre guillemets, la substantifique moelle de ce que l'artiste veut rendre. C'est quand même la main humaine qui va permettre la création, grâce à cet outil, d'une œuvre finalisée.
Prix de l'œuvre, 8000 euros avec un certificat de propriété privée digitale. Mais pour espérer vendre ses œuvres à ce prix-là et en vivre, les artistes devront vraiment se démarquer. Pour Sébastien Borgé, le fondateur de la galerie digitale Artverse.
On déborde de contenu, il peut être généré quasiment à volonté.
présentée à bas coût. Qu'est-ce qui va différencier une photo d'art d'un contenu générique généré par l'AI? Ce n'est pas le support ou l'œuvre seule qui devient intéressante. C'est souvent savoir en fait qu'est-ce que le photographe va chercher à faire, où est-ce qu'il apporte une valeur propre qui est la sienne, et donc il ne se contente pas de faire juste du prompting pour donner une vision.
Les gérants de galeries d'art digital sont optimistes pour l'avenir, malgré la technologie qui évolue très vite, car comme pour l'art traditionnel, les œuvres générées par l'IA pourront très bien trouver leur public, même après la mort des artistes.
L'ambiance se refroidit demain avec une baisse des températures. 2 à 6 degrés sont attendus au réveil sous un ciel ensoleillé autour du golfe du Lion, mais encore encombré au nord. C'est la fin de ce journal, préparé avec Caroline Beneteau, Alex Dang à la technique.